ça ne signifie rien.
Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne.
Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Cette émission est réalisée par Lucien Auriol dans les conditions presque parfaites du déconfinement. La coordination de l'émission et les lectures sont de Camille Blumberg.
Cette émission est aussi préparée avec l'aide de Victor Simon, Pierre Tréléa et Eban Valaïs. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des Surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.
Et puis, l'Union européenne, pour moi, elle est symbolisée aussi par la perte de souveraineté sur nos choix dans chaque pays. Moi, j'aimerais bien que la France puisse décider, avec son propre budget, de subventionner des services publics, de soutenir son industrie, de faire une réforme des retraite qui garantisse une bonne retraite et une bonne pension à chaque retraité.
Bah, si vous voulez, moi, je ne tranche pas en c'est pas un saucisson, quoi, la souveraineté nationale, on ne la tranche pas en morceaux. Il n'y a pas d'un côté la monnaie, d'un côté la frontière, d'un côté le budget, d'un côté la loi, d'un côté je ne sais quoi, l'armée, la diplomatie. Non, la souveraineté nationale, c'est quoi? Elle est d'ailleurs dans notre Constitution, l'article 3. C'est le pouvoir, c'est à qui appartient le pouvoir, voilà, à qui appartient le pouvoir de décider de son destin, de prendre des décisions. De notre point de vue, ce pouvoir, il appartient au peuple français, à la nation française. C'est la souveraineté nationale, et non pas à des instances non élues à Bruxelles.
Vous venez d'entendre, dans l'ordre, Fabien Roussel, député à l'Assemblée nationale, membre du Parti communiste français, en 2019, et Florian Philippot, en 2017, ancien député européen, président des Patriotes. Alors ici, quelle est l'idée reçue? L'idée, c'est que la France aurait perdu sa souveraineté dans la construction européenne. On n'est pas loin du discours selon lequel l'Europe serait dirigée par des technocrates non élus. Et c'est un sujet que nous avions traité lors du premier épisode. Nous ne serions plus en démocratie, puisque le peuple n'aurait plus son mot à dire. Mais alors, d'où vient cette légende européenne? Eh bien, cette idée n'est pas limitée à l'extrême droite ou à la gauche radicale, mais elle vient aussi des partis de gouvernement. Elle viendrait même d'Emmanuel Macron lorsqu'il dit qu'il faut rétablir une souveraineté nationale à la suite de la crise sanitaire, et cette idée alimente l'idée selon laquelle l'Europe a rogné cette souveraineté. C'est en tout cas ce qui ressort du traitement médiatique qui est fait de son discours, car en réalité, Emmanuel Macron dit qu'il faut restaurer la souveraineté de la France, mais aussi la souveraineté de l'Europe. Il y a donc une inclinaison systématique, lorsqu'on parle de souveraineté, à l'envisager comme étant abîmée par l'Europe. Alors comment cette idée s'est-elle répandue? Eh bien, la souveraineté nationale, c'est traditionnellement le combat des gaullistes, et notamment des gaullistes modernes comme Henri Foucquereau, qui avait publié une tribune en mai 2020 dans laquelle il explique que la France a perdu sa souveraineté. Il intitule même « Le jour où la France a perdu sa souveraineté ». Et il date ce jour au 7 février 1992, la date de la signature du traité de Maastricht. Mais si on remonte un peu plus loin, et moins radical, il y a Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, lors de son appel de Cochin en 1978, identifiait la communauté européenne au parti de l'étranger. Mais la question, le souci de la souveraineté nationale, s'est surtout développée, devenue plus prégnant sur l'émergence des questions économiques, avec notamment la création de l'euro et surtout de la discipline budgétaire. En 2012, lors de la signature du traité budgétaire européen, en pleine crise financière de la zone euro, le magazine Marianne, plutôt à gauche, avait titré un de ses articles « Le traité budgétaire européen, fossoyeur de la souveraineté nationale ». Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien c'est compliqué parce que tout dépend de la définition que l'on donne à la souveraineté. Et aussi parce que il y a plusieurs aspects de la souveraineté. Celle de l'État, qui lui permet de construire, de conduire ses affaires internationales, ou celle de la nation, ou bien du peuple, qui lui permet de décider de son propre avenir. Mais ce qui est certain, c'est que le reproche fait à la construction européenne qui rognerait la souveraineté nationale fait appel aux deux aspects de la souveraineté. Extérieure, la France vis-à-vis des autres États dans le monde, et intérieure, le pouvoir du peuple ou de la nation.
Il faudrait sans doute ajouter la souveraineté européenne portée dès le début de son mandat par Emmanuel Macron. Pour lui, cette souveraineté européenne reposerait sur 5 piliers, la sécurité, la croissance, la protection commerciale, le développement durable et le numérique. Alors comment inscrire cette souveraineté dans celle que vous avez déjà mentionnée, Vincent ?
En réalité, on voit avec ce que vous dites, Tania, que la souveraineté, c'est une construction politique dont la définition varie en fonction des objectifs politiques qu'on lui assigne. Et le débat, il est donc difficile. Alors essayons de déconstruire intégralement ce raisonnement sur la souveraineté parce qu'il est tellement ancré dans nos idées qu'on ne peut tenter de le contrer que par un raisonnement inverse, radical. Au final, la vérité se trouvera peut-être un peu au milieu. Essayons donc de dire que la construction européenne n'a en rien attenté à la souveraineté nationale.
Alors Vincent, commençons par un poncif. 80% des lois françaises seraient d'origine européenne.
Alors longtemps, en effet, le chiffre de 80% des lois françaises qui seraient d'origine européenne a tourné. Et pour cause, c'est Jacques Delors, ancien ministre de l'économie sous la présidence Mitterrand, président de la Commission européenne de 1985 à 1995, c'est lui-même Jacques Delors qui l'avait trouvé. Sauf que les citations, celles de Jacques Delors en particulier, c'est un peu comme les légumes, on les coupe. Un peu comme Michel Rocard qui avait déclaré « La France ne peut accueillir toute la misère du monde ». Et on oubliait souvent la suite, mais elle doit y prendre sa part. C'est pareil pour Jacques Delors. Quand en 1988, il dit sa phrase sur les 80% de lois françaises qui seraient d'origine européenne, il dit « Dans 10 ans, presque 80% des lois seront d'origine communautaire en matière économique ». Il y a déjà deux points ici, ça ne concerne que l'économie, et c'était une tentative de prédiction. D'ailleurs, Jacques Delors, dans son discours, il disait que ça concernerait aussi, peut-être, la fiscalité et les affaires sociales. Avec le recul, on peut dire que sa prédiction est un échec total, vu le peu d'harmonisation sociale et fiscale, même 30 ans plus tard. En réalité, c'est plutôt 10% des lois françaises qui seraient influencées par le droit européen, d'après une étude de la Fondation Terra Nova, voire, pour d'autres études, jusqu'à 30 ou 35% des normes nationales. Mais ces chiffres, qui font le grand écart, en réalité, ils ont assez peu de sens. Beaucoup des règles européennes qui s'appliquent à la France ont été décidées avec l'accord de la France au niveau européen. Même décideur, mais dans une salle différente. En même temps, ces chiffres visent uniquement les cas de transposition des directives. Or, l'Union européenne intervient souvent directement sans que l'État ait à transposer une directive. Par exemple, en matière de concurrence, on a des décisions de la Commission européenne qui va directement sanctionner une entreprise ou forcer un État à récupérer une aide d'État illégale. Ou même, il y a le simple respect des traités européens par les États. Et même lorsqu'un État transpose une directive, qu'est-ce qui nous dit qu'en l'absence de directive, il n'aurait pas donné la même orientation à ses politiques publiques ? Au final, la quantification est impossible.
Très bien, merci Vincent pour ces chiffres, mais concrètement, qu'en est-il de notre souveraineté nationale et de notre liberté d'action ? Sommes-nous totalement libres quand il s'agit de notre armée, de notre monnaie, de notre politique industrielle ou encore de notre politique d'immigration ?
Eh bien, Tania, sur chacun de ces sujets, on peut trouver des arguments qui montrent que la France a perdu sa souveraineté. Le franc a disparu au profit d'une monnaie commune, l'euro. La politique migratoire de l'Union européenne et son marché intérieur nous empêcheraient d'ouvrir ou fermer nos frontières nationales comme bon nous semble. Nous ne serions pas libres de garder nos entreprises et de les aider à rester sur le territoire. Et l'armée, même là, les polémiques vont bon train. Du traité d'Aix-la-Chapelle entre la France et l'Allemagne, dont Marine Le Pen disait qu'il allait obliger la France à partager son siège à l'ONU avec l'Allemagne, à certains Britanniques qui craignaient une invasion par une armée européenne secrète en cas de Brexit. En fait, la France... aurait perdu sa souveraineté dans l'Europe essentiellement parce qu'elle ne peut plus décider seule sur ces sujets. Sauf que, si on y réfléchit, la capacité qu'a la France de faire partie de l'Union n'est ni plus ni moins que la manifestation de sa souveraineté. C'est bien parce qu'elle est un État souverain qu'elle peut en être membre, qu'elle peut signer ses traités.
Oui, en pratique, la France et les autres pays, les États membres de l'Union, ont un jour décidé que le sujet de l'économie serait plus intéressant à traiter tous ensemble. Et ils ont ensuite élargi volontairement à d'autres domaines, dont certains semblent d'ailleurs davantage relever de la souveraineté.
Oui, et d'ailleurs, la France peut à tout moment quitter l'Union. Et qu'on ne dise pas que c'est théorique, hein, parlez-en aux Britanniques. D'ailleurs, en parlant des Britanniques, il n'est pas certain qu'avec le Brexit, ils soient plus souverains qu'avant. Les USA leur imposent désormais des conditions sévères pour qu'un accord commercial soit conclu avec eux. Poulet au chlore, OGM, abandon des AOP pour les produits du terroir, ouverture totale des marchés publics aux entreprises américaines. Certains officiels américains parlent même d'une condition d'un alignement militaire sur les États-Unis pour la conclusion d'un accord avec le Royaume-Uni. Quelle est encore la souveraineté du Royaume-Uni dans ces circonstances? D'autre part, les politiques auxquelles la France participe ne l'empêchent pas totalement d'agir comme elle l'entend.
C'est vrai que par exemple, même si les frontières d'un pays sont sans barrières physiques dans l'Union européenne, un pays peut décider de remettre des contrôles, comme dans le cas du coronavirus ou en raison de flux migratoires intenses, mais en respectant des règles européennes.
Oui, et puis on peut dire aussi qu'au niveau de l'Union, les États sont bien présents. On a l'impression que l'Union, elle est dirigée par la Commission européenne, mais ce n'est pas toujours le cas. Depuis le traité de Lisbonne, les États ont plus de poids encore dans la définition des politiques européennes. Un poids croissant notamment du Conseil européen, notamment en matière économique, et qui siège au Conseil européen, ce sont les États. De la même manière, en matière de fiscalité directe, de diplomatie, ces matières relèvent encore du Conseil à l'unanimité, et donc chaque État peut mettre son veto. Et puis la France peut toujours agir comme elle l'entend dans les domaines où l'Union n'a qu'une compétence limitée. L'armée, la police, la justice, l'éducation. L'Union européenne a certes une influence sur ces questions, mais cela reste extrêmement circonscrit.
Finalement, comme souvent, quand il y a une confusion, c'est aussi parce que chacun met ce qu'il veut derrière un terme. Et c'est clairement le cas avec l'idée de souveraineté. Pris à la base, c'est une puissance. Mais ensuite, on estime que certains aspects expriment la souveraineté, comme par exemple l'armée. Mais alors, qu'en est-il dans les pays qui ont volontairement cessé d'avoir une armée, comme le Costa Rica? Y a-t-il pour autant perte de souveraineté ou juste une définition différente de ce que veut dire la souveraineté?
Thank you.
Nous venons d'écouter l'inspirant chanteur burkinabé Victor Démé avec sa chanson John Maya. En début d'émission, je disais qu'il fallait être radical dans la critique pour explorer tous les contre-arguments possibles à l'idée selon laquelle la France aurait perdu sa souveraineté. Or, qu'est-ce qu'être souverain ? C'est décider pour soi-même. En 1989, c'est là que naît la question de la souveraineté nationale. Dans son ouvrage, à succès, Qu'est-ce que le tiers-État ? L'abbé Sieyès dit alors que la souveraineté appartient à la nation, puisque c'est elle qui a le pouvoir. Et cette nation est alors représentée au sein d'une assemblée que l'on crée alors, l'Assemblée nationale. C'est cette même année qu'on rédige la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et à l'article 3, on insère une disposition « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ». Le problème, c'est que plus tard, on va commencer à confondre nation et État, de sorte que va émerger la notion d'État-nation. L'État étant la personnification juridique de la nation, c'est lui qui peut signer les traités au nom de la nation, on en a déduit que nation et État étaient deux faces d'une même pièce. D'où la création en 1919 de l'ancêtre de l'ONU, la Société des Nations, et non pas des États, puis en 1945 de l'Organisation des Nations Unies. Pas des États, des nations. Petit à petit, on a eu tendance à considérer, par métonymie, que c'est l'État qui est souverain. Cette idée, elle est notamment très ancrée en France, où l'État est personnifié par un président de la République, il semble être le souverain. C'est pour cela d'ailleurs qu'une des principales critiques françaises de l'Union, c'est qu'elle serait non démocratique car ses dirigeants ne seraient pas élus. Et que par ses dirigeants, on entend, en tant que Français, l'exécutif, c'est-à-dire au niveau européen, la Commission européenne.
D'ailleurs Vincent, nous avons déjà vu dans un épisode précédent appelé « À Bruxelles, les gens ne sont pas élus » que la Commission est élue par le Parlement, qui lui est élu par les peuples d'Europe.
Oui, mais pour les Français, ce n'est pas assez. Il faudrait élire la Commission européenne directement, ou du moins sa présidente. Ça serait le seul moyen d'avoir une démocratie européenne aux yeux des Français. Mais si on revient un peu aux bases de la démocratie, le souverain, c'est celui qui détient le pouvoir. Ce n'est pas l'État. Et en fait, le souverain, c'est le peuple. C'est l'assemblée des citoyens. La démocratie, c'est une société dans laquelle le pouvoir appartient au peuple, qu'il exerce directement ou par le biais de ses représentants. On le voit à l'article 3 de la Constitution de la Ve République, la Constitution française actuelle, la souveraineté nationale appartient au peuple. Et alors le peuple en Europe, où est-il ? Si on regarde le préambule du traité sur l'Union européenne, les États membres écrivent être résolus à poursuivre le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe. Et puis plus tard, en 1992, le traité de Maastricht crée la citoyenneté européenne où chacun des ressortissants d'un État membre de l'Union est aussi citoyen de l'Union européenne. Et puis, on peut se référer également dans ce traité sur l'Union européenne à l'article 10.
Les citoyens sont directement représentés au niveau de l'Union, au Parlement européen.
La conséquence, c'est que les citoyens français sont représentés à la fois à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. On a une sorte de souveraineté partagée. C'est en tout cas l'idée défendue par la rockstar des philosophes en Allemagne, Jürgen Habermas.
Hyper rock, le concept de patriotisme constitutionnel, une idée de Jürgen Habermas qui permet de se détacher du concept d'État-nation que vous avez mentionné tout à l'heure, pour plutôt souligner l'attachement des citoyens à leurs institutions, ce qui rejoint ce que vous venez de nous expliquer sur l'importance du vote et de la démocratie.
Oui, effectivement. Et en fait, quand on transfère des compétences à l'Union, ce n'est pas l'État français qui se dépouille de sa souveraineté, c'est le citoyen français qui agit désormais à deux niveaux différents, mais sans perdre son pouvoir. D'ailleurs, dans une étude publiée en 2018 sur la citoyenneté, le Conseil d'État avait dit ceci.
En se construisant d'abord au travers des droits fondamentaux qui lui sont attachés, cette citoyenneté, européenne, originale, a bien eu pour effet de conduire l'ensemble des citoyens nationaux des États membres à se considérer non plus seulement comme citoyens dans un cadre national, mais bien comme citoyens de l'Union européenne tout entière.
Alors maintenant, écoutons Emmanuel Macron devant le Parlement européen le 17 avril 2018.
Et nous échangeons aujourd'hui dans un moment aussi qui est celui de grandes transformations liées au numérique, au réchauffement climatique et à ses conséquences, qui remettent en profondeur les fondamentaux de la société industrielle qui avait fondé nos grands compromis, font naître des peurs, nous conduisent à revisiter certains grands équilibres et nous imposent de repenser la grammaire d'action qui est collectivement la nôtre. Et donc ce moment nous donne une responsabilité toute particulière. Nous ne pouvons pas faire comme si, en quelque sorte, nos discussions étaient ordinaires. Et ce moment, c'est celui qui nous sépare des élections européennes à venir, où nous aurons à faire vivre nos combats pour les idéaux qui nous ont faits. Et je veux, pour amorcer notre discussion, simplement partager avec vous deux convictions fortes. La première, c'est que si nous décidons d'abandonner notre attachement à la démocratie et tout ce qu'elle emporte en Europe, nous ferons fausse route. La deuxième, c'est que nous pouvons, dans ce cadre, et nous devons construire une nouvelle souveraineté européenne par laquelle nous apporterons la réponse claire, ferme à nos concitoyens que nous pouvons les protéger, apporter une réponse à ces désordres du monde.
Ah, la voilà la souveraineté européenne, Vincent.
Ah oui, effectivement, Tania. Et d'ailleurs, si on va jusqu'au bout du raisonnement qu'on essaye de dérouler depuis tout à l'heure, certains, en effet, prônent une souveraineté européenne, comme Emmanuel Macron, il avait fait lors de son discours à la Sorbonne et puis lors de plusieurs discours pendant la crise sanitaire. Mais est-ce que c'est seulement possible au regard de ce qu'on vient de dire? Parce que la souveraineté, elle appartient aux citoyens, au peuple. L'État ne fait que la représenter. C'est la même chose pour l'Union européenne. Elle n'est pas souveraine. Elle ne fait que représenter notre souveraineté et considérer qu'elle pourrait être souveraine, en réalité, c'est reproduire toujours la même erreur.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.
Alors Tania, et les droits de l'homme, bordel? Aujourd'hui, vous vous intéressez au concept de désobéissance civile.
Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
Et si je ne suis pas d'accord avec la Constitution, je fais quoi? Si je considère qu'elle ne respecte pas les droits de l'homme, comment je m'y oppose? S'opposer à la Constitution, ça n'est pas facile et juridiquement compliqué, voire impossible. Il y a bien le Conseil constitutionnel, mais il veille au respect de la Constitution par les autres textes, mais pas au respect de la Constitution par la Constitution. Il faudrait pouvoir réviser la Constitution, mais ça c'est l'apanage du gouvernement ou des parlementaires, nos représentants. L'opposition juridique est donc difficile. Il reste alors une opposition de fait appelée la désobéissance civile.
C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher.
Désobéir à la loi ou à la Constitution, c'est illégal. Mais quand c'est un mouvement général venant du bas, de la société directement, cela peut parfois entraîner une modification de législation, voire de la Constitution. L'idée de désobéissance civile nous vient des États-Unis, d'un livre de Henry David Thoreau écrit en 1866. Cet auteur avait alors refusé de payer un impôt car il était opposé à la politique d'esclavage de son État. Emprisonné, il a développé cette idée de résistance ensuite reprise par Gandhi. Même si son action individuelle n'a pas eu le retentissement escompté à l'époque, la désobéissance civile a parfois entraîné des changements importants. Surtout parce qu'elle implique de refuser d'obéir à une loi que l'on trouve injuste, illégitime. C'est par exemple l'histoire de l'adoption de la loi de 1975 ouvrant la possibilité à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Les moins jeunes d'entre nous se rappelleront que la loi punissait sévèrement l'avortement, jusqu'à 2 ans de prison. En 1972, Maître Gisèle Halimi est sollicitée par une jeune fille violée qui a avorté. Elle en fait son combat, qui sera entendu d'abord par les juges puisqu'ils relaxent la jeune fille. Ensuite, le ministère de la Justice donnera comme instruction de ne plus poursuivre les avortements. Enfin, en 1975, une loi est adoptée pour autoriser l'IVG. Quel combat mener aujourd'hui pour insuffler un changement de loi ou de constitution ? Il y en a tellement en réalité. Mais peut-être que celui qui se dégage des autres concerne la protection de l'environnement. Et d'ailleurs, en février 2020, 1000 scientifiques s'associent dans une tribune publiée dans Le Monde pour rappeler l'urgence climatique et inviter à la désobéissance civile. Comment ? Prenons comme exemple Extinction Rebellion, une association qui multiplie les actions de désobéissance civile. C'est eux qui ont occupé un pont à Paris pour attirer l'attention sur l'urgence climatique. Ils ont, pour les mêmes raisons et rien que pour le mois de février 2020, bloqué un cimentier pendant des heures ou encore installé une ZAD sur le canal de l'Ourcq. Leur intention est de réveiller la pensée politique sur l'urgence climatique pour faire bouger les choses sur le terrain législatif. Ici, la lutte n'est pas contre une interdiction, comme celle de l'IVG, mais contre l'inaction des politiques qui se traduit par un cadre légal insuffisant pour que les entreprises et les particuliers adoptent des comportements plus respectueux de la planète. Après l'abolition de l'esclavage, l'autorisation de l'IVG, l'avenir nous dira s'il a à nouveau fallu que le peuple se mobilise, désobéisse en masse pour que ce soit l'environnement qui soit cette fois considéré comme une priorité dans nos lois et dans notre constitution.
Merci Tania, et que vous obéissiez ou que vous désobéissiez, merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des Surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.